With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Pour ce 22e épisode de la saison 2, vous allez pouvoir écouter une discussion riche, saine et déconstruite. J'ai en effet eu le plaisir d'échanger avec Benjamin. Sa voix ne vous sera sûrement pas inconnue puisqu'il est un youtubeur à succès. Benjamin a 27 ans et une réflexion sur l'homme, le masculin, le sexe, les rapports des uns et des autres qui fait du bien. Et je suis ravie de clôturer cette saison avec lui. Je remercie Benjamin Nevers d'avoir trouvé le temps de venir sur mon canapé rose et de s'être ouvert avec autant de naturel et de bonnes ondes. Je vous invite à aller voir ses vidéos, si ce n'est pas déjà fait, sur sa chaîne YouTube, vous êtes vraiment sympa. Et c'est une transition parfaite car cela me permet de vous remercier infiniment pour votre sympathie, votre bienveillance, votre soutien et votre fidélité. Cette année, le podcast a beaucoup grandi et moi aussi. Vous m'avez porté et j'ai hâte de vous proposer une saison 3 avec encore plus de diversité et d'invités qui vous touchent et vous chamboulent. En attendant, cet été, vous retrouverez quelques épisodes spéciaux avec des invités déjà passés dans les saisons précédentes qui répondront aux questions que vous leur avez posées. On se retrouve le 9 septembre avec un nouvel épisode de On the Verge. Je vous laisse donc avec Benjamin Nevers, qui est, et je vous le valide à 250%, vraiment super sympa. Salut Benjamin.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Je suis hyper contente que tu sois là en face de moi sur le fameux canapé rose. Les gens vont reconnaître très vite ta voix et puis en plus j'aurais fait en sorte que les gens découvrent rapidement que tu es en face de moi. Donc Benjamin Nevers de YouTube. Alors est-ce qu'on dit YouTube,
YouTuber? Moi je dis YouTuber. Il y a un grand débat de dire est-ce qu'on dit créateur de contenu, est-ce qu'on dit... Non, moi je dis YouTuber, je suis sur YouTube.
Alors Ben ou Benjamin?
Oh, comme tu veux.
Oh, c'est vrai,
ouais. En vrai, on m'appelle de plus en plus Ben,
bah, oui,
parce que sur Insta c'est Ben Nevers, mais en vrai, on m'appelle vous êtes vraiment sympa des fois aussi. Donc,
Monsieur vous êtes vraiment c'est sympa. Ça. Après c'est positif, c'est cool. Hein.
C'est vrai.
Moi heureusement que c'est pas encore Madame on the Verge, pour le coup c'est,
ouais.
C'est plus teinté.
Un peu étrange.
Ok Benjamin, bah du coup on va commencer par cette première question que je pose à tous mes invités. Le tout premier souvenir qu'il y a à la sexualité, l'érotisme, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine en toi?
Ouais. Alors, attends, quel âge j'avais? C'était tôt, hein, je pense, très tôt. Vers 7 ans, un truc comme ça. Non, avant. beaucoup plus tôt. Plutôt vers 5-6 ans. Et je pense que c'est un espèce de truc un peu classique de. Avec une copine de mon âge dans sa chambre, et voilà, on se met dans le lit et on découvre le corps de l'autre. Quoi.
Le fameux docteur.
Ouais, complètement. Et je pense qu'il ne s'est rien passé de fou, mais du coup, je pense que si je le retiens encore aujourd'hui à 28 ans, c'est que
ça t'a fait
que
un truc.
Moi, ouais. Et tu vois, là, c'est le premier souvenir qui me vient comme ça. Après, des souvenirs plus amoureux. Moi, j'ai ma première copine, c'était en maternelle. On avait vraiment un truc, on se tenait la main, on se disait je t'aime, on s'embrassait sur la bouche, etc. Mais c'était plus. Enfin, il n'y avait rien de sexuel, hein, évidemment. Donc, c'était plus un truc de. On recrée un schéma de nos parents, quoi.
Okay.
Mais c'était les premiers sentiments amoureux et premiers trucs où j'ai l'impression que depuis tout petit j'ai ce truc là de plaire, de vouloir plaire, de trouver une copine. J'ai eu très peu de phases célibataires dans ma vie par exemple, tu vois.
Okay.
Et ouais, du coup je me rends pas compte, mais peut-être 6 ans, je sais pas, je me rends pas compte si c'est tôt ou pas, mais en tout cas c'est les premiers premiers souvenirs en tout cas de choses, plus de découverte du corps de l'autre.
On parlait de sexualité facilement chez toi?
Non, pas par tabou vraiment dit, tu vois, il n'y avait pas un truc de « ah non, ça on n'en parle pas », etc. Juste, on n'en parlait pas. Moi, alors que ma mère est quelqu'un qui parle beaucoup, mon père parle très très peu. Donc avec mon père, on a très peu parlé, mais de pas grand-chose hein, dans ma vie. Ma mère, on parle de beaucoup de choses, mais moi j'ai une espèce de pudeur... Je sais pas exactement d'où elle vient, mais j'ai une espèce de pudeur qui fait que on a même jamais parlé sexualité avec ma mère en fait.
Donc si t'avais des questions petit garçon, tu trouvais les réponses ailleurs?
Exactement, ouais. Mais tu vois, j'ai pas eu le sentiment d'avoir de m'être posé des questions et d'avoir eu le besoin de poser des questions. Je sais que ma mère, une fois, quand j'avais peut-être 15 ans, m'a abordé le sujet en mode « Oui, si tu veux des préservatifs, nanana. » Et en fait, j'ai très vite coupé court parce que...
Non, laisse-moi.
Ouais, non, mais c'était, ouais, c'était plus ça. Et c'était vraiment un truc de « Non, mais ok, moi je suis déjà éduqué là-dessus et pas besoin d'en parler. » Et okay. J'ai, en fait, j'ai jamais eu l'impression que c'était à mes parents de m'expliquer tout ça.
D'accord.
Bizarrement. Alors que du coup, je sais pas comment j'ai été éduqué. Je pense que j'ai été éduqué en discutant avec d'autres, avec mes potes, avec... Le porno hein, aussi m'a vachement éduqué.
C'est ce que j'allais te dire, tu fais partie de cette génération, il y avait les ordinateurs à la maison.
Exactement, donc, alors il n'y avait pas encore la DSL.
Oui.
Donc on faisait charger des pages pour avoir une photo.
Tu sais, moi j'ai eu mes résultats de bac sur Minitel. Donc...
Ah oui, d'accord.
Non, déjà, bah... alors... c'était déjà pas mal de charger la page, c'était déjà une grande modernité. Donc oui, du charger, oui, t'es allé sur les sites, ils existaient déjà.
Ils existaient déjà, ouais. Moi le... Il n'y avait pas la DSL, mais ouais, à 14 ans, c'est ça, il y avait quand même Internet avec, où ça coupait le téléphone.
Oui, j'avais ça, c'était pas, avec le modem. Du coup, bon, tu as ces souvenirs-là quand tu es jeune garçon. Tu rentres dans la prépuberté, comment ça se passe? Ton corps commence à changer, les hormones commencent à faire leur taf. Comment tu appréhendes ce changement de corps?
Moi, j'ai une relation à mon corps qui est assez... qui est un peu différent, on va dire. J'ai eu les mêmes problématiques que tous les mecs d'un point de vue hormonal, à la puberté, etc. Mais moi, quand j'ai eu 6 ans, j'étais plus petit que tout le monde. Mm-hmm. Et en fait, on m'a diagnostiqué un retard de croissance.
Qui était dû à quoi, tu sais?
Non, en fait, c'est très flou. On voit juste que l'hormone de croissance ne fonctionne pas normalement.
D'accord, est plus basse.
Ouais. Et du coup, bah... On le voyait parce qu'il y a un moment, on s'est rendu compte que bah, sur ma courbe de croissance, j'étais quand même plus petit que tout le monde. Mm-hmm.
Et que, tu le voyais, je pense, toi-même.
Bah ouais, c'est ça, complètement. Je le voyais, clairement. Et donc, du coup, en fait, j'ai fait une batterie de tests pendant 2 ans, un truc comme ça, pour savoir quel traitement était adéquat, etc. Moi, en plus, je suis sur la première génération de traitement hormonal avec de l'hormone synthétique.
D'accord.
Avant, c'était de l'hormone qui était prise sur des cadavres de bovins, etc. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de soucis de cancer derrière, etc.
Ah, c'est étonnant.
Donc, moi, j'ai fait partie de la première phase test du coup de l'hormone synthétique ouais. Donc je sais pas si on a assez de recul pour l'instant, mais bon, en tout cas tout
ça a l'air,
bien
ça a l'air de bien aller.
Mais en tout cas voilà, ce rapport au corps il a fait que de toute façon moi j'ai eu tout a été plus tard que les autres.
D'accord.
Donc j'ai mis plus de temps à grandir. Je pense que même au niveau des poils, etc., tu vois, des trucs un peu classiques, même d'un point de vue barbe, tu vois, j'ai eu une barbe très très tard. Donc moi, j'ai eu des questionnements de masculinité qui étaient plus en retard que
quand
que
tu dis
monde,
très quoi. En retard, c'est quoi? C'est plutôt au lycée? Plus
ah non,
lycée
moi,
que
ouais,
collège
non, j'avais pas de barbe au lycée. Hein. J'ai eu de la barbe plutôt en... Je crois que j'ai commencé à avoir de la barbe en licence, quoi.
D'accord.
Donc
après, là, vers la vingtaine, quoi.
Ouais, en bac plus 3, ouais, bien sûr.
Ok, donc du coup, ton corps de jeune garçon, prépubère, on va dire, pour intermédical, tu vas l'avoir au collège et au lycée.
Ouais. Alors, au lycée, en vrai, ça va, parce qu'après, je faisais beaucoup de skate et beaucoup de BMX.
D'accord, donc t'as développé...
Donc, je m'étais quand même musclé le corps, donc je commençais quand même à avoir des pecs, j'avais des abdos. Comme je suis très mince, en plus, l'avantage, c'est que du coup, je faisais plus quelqu'un de sec.
Ouais, athlétique.
Sec, ouais, complètement. Donc là, ça allait à ce niveau-là. Mais ouais,
et ta voix, parce que t'as une voix grave, ta
ouais,
voix a mué
non, alors ma voix a mué en même temps que tout le monde, par contre.
Ah,
ouais,
c'est étonnant.
Vers,
okay.
Je sais pas, vers 13 ans, j'ai commencé à muer.
Ah d'accord,
ça,
donc
ouais.
T'avais, enfin, sans, il y a pas de curseur bien sûr, mais t'avais ça, parce que c'est vrai que la voix, c'est vraiment ce qui va différencier à ces âges-là en plus, et les jeunes femmes, enfin, il y a des études là-dessus qui sont sensibles justement après aux voix plus graves. Donc, t'avais cette voix-là quand même qui t'a accompagnée dans ta puberté.
Complètement.
Donc, t'as eu quand même un marquage.
Ouais, complètement. Oui, okay. Et puis de toute façon, en vrai, vers 15 ans, j'avais quand même beaucoup rattrapé le retard.
D'accord.
Parce que j'ai arrêté mon traitement à 17 ans. En fait, j'avais vraiment pratiquement rattrapé le retard. Là, tu vois, je fais 1m69. Et en vrai, j'étais vraiment pas loin de cette taille-là.
C'est hyper honnête parce que généralement, on arrondit.
Ouais, non.
T'es là, super honnête, ok.
Là, je connais ma taille exacte, on va pas mentir là-dessus, c'est pas vraiment 1m70.
Bah, le matin peut-être, le soir un peu moins.
Non, je crois qu'on est plus sur le matin 69 et peut-être moins en fin de journée, ouais.
Ok. Comment ça se passe justement au collège avec les filles? Est-ce que ce retard de croissance va te bloquer dans justement ton évolution? Parce que le reste marche hyper bien, j'imagine. Donc, comment ça se passe pour toi avec les filles à ce moment-là?
Eh bah, bizarrement, j'ai aucun souci. En fait, quand j'y repense maintenant, j'ai eu aucun souci avec les filles, mais c'est moi qui mettais énormément de barrières parce que je retenais aussi beaucoup plus le négatif. Donc,
d'accord.
Je retenais plus les filles qui pouvaient me dire ah mais enfin t'es plus petit que moi ou non je veux pas, tu vois, j'avais un vrai décalage. En plus déjà que de base, tu vois, à l'adolescence il y a quand même un gros décalage entre les
bien
mecs et les
sûr,
meufs,
les filles sont formées très jeunes,
complètement.
bien
Donc
sûr.
tu as vraiment l'impression d'être un gamin par
C'est
rapport aux
vrai.
filles. Donc si en plus de ça tu rajoutes moi j'avais une grosse différence de taille globalement avec toutes les filles en fait. C'est drôle parce que là ça m'est arrivé là il y a quelques semaines de revoir des potes meufs du collège où pour moi j'avais un souvenir de me dire ah mais elles sont hyper grandes etc. Et en fait là, elles sont plus petites que moi tu
Ouais,
vois
bien
et on
sûr.
s'est pas vu depuis plus de
Oui, c'est
10
vrai
ans.
que les filles grandissent très vite
Ouais.
et les garçons, ça va jusqu'à 25 ans, je crois. Hein.
Ouais, c'est
Enfin,
possible, ouais.
Attends, j'ai donné des cours et je me rappelle qu'effectivement, à 22, 23 ans, il y avait un gap de virilité. Tu
Ok.
sais, il y avait un truc qui se développait
Ok,
chez les
ouais.
garçons.
Mais ouais, moi, tu vois, c'est dans ces âges que tu dis,
Ouais.
là, que j'ai commencé à avoir de la barbe, que j'ai commencé
Ouais, ce à
même
22,
à développer
23,
plus
ouais.
un corps d'homme, en
C'est
fait.
ça.
Tout est arrivé en même temps, la barbe, même commencer à
Ouais,
transpirer,
ouais.
avoir
Ouais.
des odeurs de. Ou avant, je transpirais jamais, je chantais rien et tout. Vraiment,
Petit
c'est un
garçon.
moment où je me suis dit, mais j'ai un problème. Et
Non,
non, en
non.
fait, je suis en train de devenir un homme, ok. Aucun souci avec les filles. Enfin, je te dis, j'ai toujours eu des copines. Voilà, j'ai. En plus, à chaque fois, je sortais avec les filles que tout le monde voulait, qui étaient les plus belles, etc. Et pour autant, j'avais très, très peu confiance en moi. Bon, de toute façon, je pense que c'était vraiment un âge où, en
Oui,
termes de
ça, oui.
confiance en toi, bon, voilà. Mais j'ai gardé jusqu'à très, très tard ce complexe-là de me dire, en fait, je suis plus petit que tout le monde, je mérite pas forcément, tu vois.
D'accord. Parce que tu avais cette vision de l'homme
Ouais.
1,85 m, développé de la barbe, etc. C'était ton
Complètement.
idéal? Enfin,
Ouais.
c'était en tout cas
Bah,
ta référence?
en tout cas, c'était le schéma et qu'on m'a fait ressentir direct. Tu vois, quand j'ai déménagé quand j'avais 7 ans, en CE1, j'ai déménagé, changé d'école. Je suis arrivé dans une nouvelle école. Au moment où on m'a diagnostiqué le retard de croissance, donc c'est à ce
D'accord.
moment-là qu'on se rendait compte que la courbe commençait à descendre. Et jusqu'à maintenant, enfin, tu vois, tu es en maternelle, même CP, tu te rends compte de
Ouais.
rien. Voilà, tu vois, il n'y a pas de. C'est des questions que tu ne te poses pas du tout. Et c'est moi, cette année-là, vraiment, en étant le petit nouveau, que j'ai découvert ce truc-là déjà de masculinité. De masculinité qui est entre les mecs.
Bien
Donc
sûr.
déjà, j'ai compris cette petite loi de la jungle avec d'autres mecs. On me fait comprendre que je suis le plus faible, on me fait comprendre plein de choses. Et les meufs aussi, en fait. En fait, c'est là que tu vois que c'est un système et que finalement, les fautifs sont autant les mecs que les meufs et chacun essaie de recréer ce schéma-là parce qu'on veut tous correspondre à ce schéma, quoi. Donc tu te rends compte que les mecs font un peu les beaux et te montrent que t'es le plus faible devant les meufs.
Si jeune.
Ouais.
C'est fou, hein.
Ah ouais, moi, ma grosse phase de harcèlement et vraiment de violence psychologique et physique, c'est cette période-là, qui a duré un an. Un an, c'est très long, et en même temps, bon, c'est pas si long que
Oui,
ça aujourd'hui,
mais...
mais moi, ça a été le vrai déclic là-dessus. J'ai changé d'école d'ailleurs après, tu vois, il y a eu tout un changement là-dessus, mais ça a été une année prise de conscience de ouf par rapport à ça.
Et tu lis ça complètement à ton physique? Au fait que tu
Non,
sois un peu plus
en
petit?
vrai, alors, il y a plusieurs choses.
Il y a le fait que tu sois nouveau aussi?
Voilà, il y a ça. Mais si j'étais nouveau et plus grand et plus athlétique que tout le monde, je pense qu'il n'y aurait aucun
D'accord.
souci parce qu'en sport, tu vois, ça aurait réglé l'histoire. Et voilà, le cours de sport entre mecs, il y a un vrai truc de. Là, c'est purement animal, tu vois. Il y a vraiment un truc de
Ouais, mais
OK,
c'est un
qui
truc
est
chez les
qui.
filles aussi, tu sais.
Ouais.
Je pense qu'il y a un truc de parade aussi,
Ouais.
aussi de compétition, complètement.
Mais toute la scolarité, hein, même au lycée, il y a eu encore ça. Hein. Il y a un vrai rite de passage des premiers cours de sport au lycée où tu te rends compte de qui. Enfin, tu vois, qui prend l'ascendant sur qui, etc.
Ouais.
quoi. C'est un truc très primaire. Mais
C'est pas en maths que ça se décide, quoi.
non, clairement pas. Ça m'aurait arrangé, mais non, pas trop, pas du tout. Et ouais, non, il y avait cette partie physique. Et après, plus tard, j'ai été diagnostiqué hypersensible,
D'accord.
qui est un mot très à la mode aujourd'hui, qui veut
C'est vrai.
plus dire grand-chose. Mais je l'ai dit d'ailleurs dans un épisode sur ma chaîne que j'avais été diagnostiqué hypersensible. Et comme c'est très à la mode, tout le monde s'autodiagnostique, tout le monde dirait, moi aussi j'ai pleuré devant des films, je suis hypersensible, etc. Et donc ça avait créé pas mal de trucs, j'avais reçu beaucoup de commentaires et de messages privés en disant, j'aime pas du tout que tu dises diagnostiqué parce qu'on dirait que c'est une maladie, etc. Et du coup, moi j'avais répondu que bah, en vrai, j'avais été diagnostiqué parce que j'ai fait une batterie de tests psy,
Bah,
etc. Donc c'est un diagnostic en fait.
bien sûr, et puis il faut rappeler que l'hypersensibilité, comme tout le spectre HP, c'est une cartographie du cerveau.
Complètement.
Donc il faut aussi enfin, se plier à ça, mais c'est évidemment pas une maladie,
Complètement.
mais effectivement c'est une façon de réagir et une réflexion qui est, on va dire, décalée par rapport à la norme. Ça ne veut pas dire
Exactement.
qu'on est anormal, mais ça veut dire qu'on est décalé par rapport à
Ouais.
la norme. Donc, et c'est effectivement l'hypersensibilité. Aujourd'hui, on y met beaucoup de choses, mais il y a plein de façons d'être hypersensible
Complètement,
aussi.
ouais.
Donc, toi, c'est une hypersensibilité qui est dans l'émotion?
Alors, émotion et hyper empathique aussi.
Ah, t'es aussi hyper empathique. Complètement. Parce qu'il y a des hypersensibles qui ne sont pas empathiques. Complètement. Et d'ailleurs, ils sont beaucoup plus heureux. Enfin, heureux, c'est tout relatif, mais en tout cas, c'est moins douloureux à vivre au quotidien. Bien sûr, ouais. Parce que l'hyper-empathie, c'est quand même très, très difficile de vivre les émotions et en plus celles des autres. Et du coup, ça t'a développé quoi, des compétences peut-être dans autre chose, dans la musique, dans les...
Alors okay. Ça c'est la partie cool, c'est qu'en vrai, et puis aujourd'hui tu vois, si je fais le métier que je fais, enfin tu vois, en vrai aujourd'hui tous ces trucs là qui ont été le fardeau de mon enfance sont aujourd'hui devenus des forces de ouf, et à l'âge adulte je suis tellement heureux d'avoir eu ce problème de croissance qui m'a développé tellement d'autres choses sur enfin qui est juste autre que lié à mon physique, tu vois. De dire bah j'ai développé plein d'autres choses artistiquement, tu vois, j'ai fait beaucoup de dessins, j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai fait beaucoup de photos aussi, ouais. Après je me suis professionnalisé dans la photo et après je suis parti dans l'image, la vidéo, etc. Donc juste cette fibre artistique, je pense qu'elle est évidemment liée à ça, c'était un vrai exutoire. Mais du coup c'était hyper compliqué quand j'étais enfant, plus parce que bah tu vois, t'es plus petit que tout le monde, en plus t'as vraiment tout ce qui est l'inverse de la virilité, qui est que tu pleures énormément, que tu prends toutes les émotions dans la gueule, que tu vis la souffrance des autres, alors que c'est déjà compliqué de vivre sa propre souffrance, donc quand tu vis celle des autres c'est un vrai fardeau. Et en vrai bah aujourd'hui je suis hyper content, enfin je te dis ça, je pense je me suis rendu compte qu'il y a des périodes de ma vie que mon cerveau a complètement oublié. Alors je pense que ça ressortira à 40 ans, hein, parce qu'on n'oublie jamais vraiment. Je pense que j'ai fermé certains tiroirs à clé.
Profites-en parce que c'est bien aussi.
Complètement. Mais ouais, aujourd'hui c'est une force de ouf, et je pense que si je fais mon métier aujourd'hui et si aujourd'hui on m'appelle autant, même tu vois, avec mes émissions France Télévisions, avec plein d'OP que je fais avec des marques, et que ce que je fais parle autant aux gens, c'est qu'il y a une raison aussi, tu vois.
Bien sûr.
Et autant j'ai eu un peu en arrivant ce syndrome de l'imposteur, d'avoir l'impression de pas tant bosser que ça certaines choses, où on me disait ah mais ça c'est trop bien, c'est hyper novateur, ta manière d'être est trop bien et tout, et moi je me disais ouais mais je l'ai pas tant bossé que ça, est-ce que je suis légitime à faire ça et tout, et je me suis rendu compte que oui, en effet il y avait des choses que finalement j'ai travaillé de manière humaine depuis que je suis tout petit.
Oui, c'est ça, c'est que t'es nourri depuis que tu es enfant sur ce schéma là et sur les valeurs que tu défends aujourd'hui, sur la masculinité positive, les liens moins complètement pas toxiques avec les gens, etc. Donc c'est ce qui fait peut-être ta singularité, donc c'est normal que pour toi ça a l'air facile, mais pour d'autres, on en parlait avant de s'ouvrir les micros, la déconstruction est encore loin d'être faite pour tout le monde. Ok, donc tu es au collège, tu es au lycée, tu as des petites amies. Ouais. Tu te rappelles ton premier baiser?
Alors, premier baiser...
Le vrai French kiss, tu sais.
Ah ouais, avec la langue et tout, ok, ouais, quel fardeau. Ouais, je m'en rappelle de
quel
ouf.
Fardeau.
Ouais. Je devais être en cinquième, un truc comme ça. Et c'était vraiment ce cliché de cours de récré, de la bande de mecs d'un côté, la bande de meufs de l'autre. Et chacun se brief sur comment il faut faire, etc. Et chacun sa méthode, tu vois. Il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Non, il faut tourner dans l'autre sens, etc. Toi, t'es stressé. Puis d'un coup, bah, tu vois, c'est presque comme si t'étais poussé du groupe. Et les
dans
deux sont
dans
poussés.
Le cercle,
exactement. Et tu fais la ligne droite et t'avances vers la fille. Une fille avec qui t'as presque jamais discuté. En plus, c'est presque limite des gens qui t'ont arrangé le truc en disant ouais, tu veux sortir avec elle? Ouais, grave, ok. Donc c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Ça n'a aucun sens. Et bon, c'était pas bien. Hein. On va pas se mentir. C'était pas bien du tout. C'est-à-dire
beaucoup trop de langues.
Beaucoup trop de langues, trop profond,
trop de salive.
Évidemment, trop de salive, un lavomatique, trop de vitesse, trop de tout, puis vraiment zéro sensualité. Et puis c'est vraiment à la fin du baiser, chacun repart directement et hop, ok, on s'est débarrassé de ça.
Fait.
Mais c'est fait. Tu vois, j'ai moins eu une espèce de satisfaction d'un rite de passage de me dire ah, c'est fait, que par rapport à la première fois, tu vois. La première fois, même si c'était aussi nul que le premier French kiss, tu vois, j'ai vraiment eu un truc de dire ah, ok, là j'ai passé une étape.
Oui, puis il y a plus d'intimité quand même à ce moment-là.
Bien sûr,
bien sûr.
Non, c'est clair. Mais ouais, non, c'était pas top. Et après, j'ai réussi à apprécier ça plus tard, en fait. Mais évidemment, quand il se passe des trucs dans la tête, plus que physiquement,
bien sûr.
Quoi.
Et donc là, c'est le collège. Le lycée, ça se passe pareil. T'as une histoire d'amour qui arrive dans ces années-là.
Lycée, j'ai ma première vraie histoire d'amour. Donc vraiment, première relation longue qui dure un an. Et où là, vraiment, on développe quelque chose, tu vois, une vraie histoire de couple. Là où avant, ça avait duré peut-être 4-5 mois, tu vois, jusqu'à maintenant, au maximum. Et puis plein d'amourettes où tu découvres plus que tu construis quelque chose. Donc évidemment, bah, le truc, il se finit très mal. Des premiers...
le drama.
Premier drama, première histoire où tu croyais que c'était la femme de ta vie, etc. Que pas du tout.
Vous aviez déjà les prénoms des enfants.
Exactement.
Évidemment.
Mais ouais, donc ça, ouais.
Et c'est là que tu découvres le corps des femmes? les filles.
C'est avant. Avant, d'accord. Parce que j'ai ma première fois avant cette personne-là.
Ah d'accord, avant ouais. Ton histoire d'amour, ouais, ouais. Ok.
Qui est justement, comme je te disais tout à l'heure, qui est une fille qui était une amie à moi au collège. Mm-hmm. Donc j'ai déménagé en fait, mm-hmm. j'ai déménagé plusieurs fois. Et en fait, on se perd de vue. Et qui était une fille hyper drôle, hyper charismatique. Et vraiment zéro ambiguïté au collège, tu vois. Mm-hmm. Mais... parce qu'en plus, c'est une meuf qui fait 3 têtes de plus que moi, qui est hyper grande, fine, etc. Et où vraiment, je suis un enfant à côté d'elle, tu vois. Et à 17 ans, à 16-17 ans, on se retrouve sur Facebook. Mm-hmm. Parce que c'était l'époque où Facebook arrive et on retombe sur les noms. On fait « Ah, mais trop bien !» On se retrouve et tout. Et en fait, on se rend compte qu'on est un peu dans le même délire, un peu période skater, okay. Période rock, Green Day, Sum 41, etc. Évidemment. Et du coup... elle m'invite à venir chez elle donc en Bretagne, donc revenir en Bretagne. Et donc je reviens, j'y passe 2 jours. Et en fait, il se trouve qu'on fait la même taille. En plus, c'était un truc tout bête, mais j'arrive et je dis « Ah ok, donc on a vraiment grandi. On est... Ok, c'est plus... » Alors que moi, je me suis dit « Ouais, elle doit faire 1m90 dans mon souvenir et tout, mais pas du tout. » Et là, il se passe rien. On s'embrasse dans la nuit, etc. Mais juste, on se dit « Bon, bah, on sort ensemble. » Et donc moi, je suis à Caen à ce moment-là. Et donc elle vient, elle me rejoint à Caen. Peut-être 2 semaines après. Et c'est notre première fois
D'accord.
Là.
Et alors, cette première fois, bon, sans déflorer toute votre intimité avec cette jeune fille, mais comment t'es quand tu l'appréhendes cette première fois ?
En fait, c'est très bizarre parce que t'as un espèce de truc où tu veux pas assumer que c'est la première fois. Donc, tu veux pas montrer que t'es stressé. Et en même temps, dans ta tête, c'est un bordel parce bien que t'es ça. Stressé de ouf. Tu penses à des trucs de dire « Attends, est-ce que je vais trouver ? Où est-ce que je m'insère ? Comment ça va se passer ? Est-ce que je vais être trop rapide ?» Tu vois, ce truc de performance masculine
oui,
en précocité, c'est, voilà. Mais c'est un fardeau qui te suit certains jusqu'à longtemps. Mais voilà, t'as ce truc-là où t'es stressé de tout. Et elle, c'était pas sa première fois.
D'accord.
Elle est sortie d'une relation de 1 an avec un mec, donc en vrai, je savais qu'en plus, en fait, ça rajoute un stress supplémentaire.
La comparaison.
Où ça m'a pas du tout rassuré. Tu vois, bizarrement, ça pourrait être rassuré de dire, bah, elle, c'est bon, elle va pas stresser.
Il y a des garçons que ça rassure. Hein,
ouais.
Qui veulent justement pas avoir leur première fois avec une fille vierge pour ouais. avoir quelqu'un qui les lead.
Bien sûr.
C'est intéressant.
Ouais. Ouais, parce que ça aurait pu être ça. Hein. J'aurais pu me dire, bah, c'est cool, au moins, elle va pouvoir me guider, elle va pouvoir tout ça. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, en fait, elle a tellement de moyens de comparaison que là, ça va être nul et qu'elle va pouvoir le comparer derrière. Et du coup, bah, la première fois, écoute, en vrai, c'est fou parce que tu découvres des nouvelles sensations et un nouveau truc hyper cool. Elle était très dans la sensualité là où moi je l'étais pas du tout parce que j'étais beaucoup trop. Enfin, tu vois, t'as la tête à autre chose en fait. Il y était vraiment dans un truc mécanique où tu te dis attends, comment ça se passe ? C'est très bizarre. Et ça dure pas très longtemps évidemment. Moi derrière, en plus, je culpabilise un peu que ça avait pas duré longtemps. Elle s'en fout royalement. Et voilà, non, mais en vrai, c'était cool.
T'en gardes un bon souvenir en tout cas.
Ouais, non, en vrai, j'en garde un bon souvenir. Je garde quand même ce truc bizarrement de performance de me dire, ah, j'ai pas été au top. Alors qu'après coup, tu vois, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et ouais, bien sûr. Et je me dis, bah, évidemment que t'as pas été au top, c'est normal. Mais c'est une première fois. En fait, on se quitte pas longtemps après parce qu'on se rend compte qu'on habite loin l'un de l'autre, qu'on a des étapes de vie où c'est compliqué. Et je pense que je rencontre ce premier amour justement 4-5 mois après, un truc
d'accord.
comme ça. Et où là, c'est une vraie découverte plus de la sexualité, quoi. Parce que bah, t'appréhendes plus, tu le refais plusieurs fois,
ouais,
et puis t'as cette relation d'amour qui est en même temps.
Oui, de confiance, d'amour
qui
se fait. Et alors, le corps de la femme, la première fois que de ce corps féminin que tu as dans ton lit, comment ça se passe ? Est-ce que t'as, alors, il y en a pour qui c'est des révélations, d'autres avec effectivement l'imagerie du porno, ils ont déjà une appréhension. Comment toi, tu le vis ?
Bah, moi, ça a été plus ce truc de me rendre compte rapidement qu'il fallait que je déconstruise. En fait, le corps de la femme en soi, j'en avais vu plein d'un point de vue juste physique parce que vachement éduqué par le porno.
Mm-hmm. À quel âge t'as commencé à consommer du porno ?
Je pense vers 14 ans.
Et c'était les potes ? C'était ta recherche ?
C'était les potes. Ouais.
D'accord.
Ouais. C'était plutôt les potes au départ. Et après, consommation, moi, perso, depuis... Enfin, tu
en support masturbatoire,
solo, et avec des périodes où, en fait, j'ai eu des grosses périodes aussi où je voulais pas consommer du tout de porno et où, tu vois, juste en masturbation, je préférais être sans porno
dans
et juste moi, quoi. Et où ça m'excitait beaucoup plus. Et après, d'autres périodes où c'était que le porno. Mais je pense d'ailleurs que les périodes après où ça a été plus le porno, ça m'a plus... fait du mal, tu vois, que fait du bien, quoi. Mais du coup, ouais, première vraie relation, c'était plus de la déconstruction, tu vois, où je me rendais compte que... Bah, déjà, le corps de la femme n'est pas le même que dans le porno. Donc déjà, il fallait aussi se dire, ouais. Ah ouais, ok, c'est pas la vraie vie non plus,
tu vois. C'est un vrai truc, ça, hein, bien sûr. Essayer de se rendre compte. Bah, en plus, le corps d'une actrice porno, plus ou moins travaillé, plus ou moins refait, plus ou moins... enfin, voilà... pimpé versus le corps d'une jeune femme qui est en, tu vois, en adolescence, ça n'a rien à voir. Enfin, même enfin, tout, quoi, les volumes, la peau, la façon de bouger, enfin, c'est tellement différent. Quoi.
Complètement, ouais. Ouais, et puis c'est bizarre parce qu'il y a des trucs qui t'excitent vachement dans le porno que t'as pas du tout envie de faire en vrai. Enfin, voilà, donc c'était un peu cette découverte-là qui, je pense, sont des questionnements aussi que ma copine avait à ce moment-là, tu vois, de... où on sentait que des fois on reproduisait des trucs de porno.
Elle regardait du porno aussi, elle.
On n'en a jamais discuté, d'accord. Mais je pense, parce qu'en vrai, on reproduisait tous les deux des fois des trucs de porno, tu vois. Ce truc où tu sais,
la scène machin.
Ouais, c'est ça. Tu sais, tu reproduis des trucs que t'as vus. En même temps, tu dis putain, mais ça me fait pas du tout kiffer. Mais enfin, tu sais, ce moment, en fait, t'es en découverte de sexualité et t'es plus dans un rôle que dans un truc vraiment où on se dit ok, on se fait kiffer. Et en même temps, tu découvres. Donc, oui. Tu testes des trucs, tu dis ouais, ok, ça me plaît pas trop. Mais non, j'ai pas eu un truc vraiment de déclic de me dire waouh, c'est trop bizarre. Parce qu'en fait, je sais pas, il y a un truc naturel aussi qui se fait de découverte de l'autre, tu vois. Mais après, si, il y a des vraies découvertes, tu vois. Il y a des vrais déclics de. Je pense par exemple au Cuny, tu vois. Mm-hmm. Le Cuny, il y a un vrai déclic où tu vois, t'es autour de la zone et il y a un moment où tu chopes un truc et tu fais. Ah ok, tu vois, c'est comme le vélo, tu vois, où t'enlèves une petite roulette et il y a un moment où tu commences à piger sur les deux roues l'équilibre. Tu fais ok, j'ai chopé l'équilibre et après
Là, je trouve que cette image est parfaite, c'est exactement ça.
Je viens de l'improviser.
Et waouh.
Puis moi, je fais partie d'une génération où on parlait pas encore trop du clitoris.
Bien sûr.
Donc
exactement.
Là où les nouvelles générations, pour eux, tu parles du clitoris, c'est en mode oui, c'est ok, c'est là que ça se passe en fait. Sûr. Moi, c'était vraiment... Et dans le porno, encore une fois, c'était pas, tu vois, c'est pas axé en mode clitoris. Parce qu'il faut montrer à l'image, il faut montrer les trucs et tout.
C'est très compliqué.
Donc, ouais. En fait, la fille criait alors qu'il mettait sa langue complètement ailleurs. Enfin, du coup, tu comprenais
c'est
pas.
Genou, c'est très normal. Ça.
Donc, vraiment, moi, on m'avait jamais dit où il faut mettre sa langue, ouais, ce qu'il faut faire, etc. Donc, c'était vraiment de l'exploration solo, quoi. Mais voilà, c'était plus... La découverte du clitoris, ça a été vraiment la découverte, je pense, où j'ai fait « Ah, ok, cool, c'est là !»
Et puis, dans l'autre sens, c'est-à-dire que ces jeunes femmes font partie aussi de la même génération que toi qui sont pas hyper encore à l'aise avec ça parce qu'on les a pas éduqués dans ce sens-là, donc ta partenaire à l'époque était déjà à l'aise visiblement avec son corps, mais il y a des filles que ce soit ma génération ou même un peu plus jeune où c'était hors de question, tu vois, le cunnilingus c'était vraiment une pratique qui se faisait pas, quoi. Donc ok,
mais après d'ailleurs mes relations après, plus j'ai vieilli, plus j'étais avec des filles qui étaient à l'aise avec leur corps et donc qui avaient découvert la masturbation, qui avaient découvert juste elles comment elles pouvaient se faire du bien.
D'accord.
Et en fait, c'est là où j'ai mes meilleures relations sexuelles, parce qu'en fait, à partir du moment où chacun sait comment se faire du bien, en fait, c'est
tu fais une addition à deux, quoi.
Exactement, complètement. Exactement. C'est exactement ça.
Ça ne va aller normalement qu'en s'arrangeant, en théorie.
Ouais, ouais.
ok, donc cette première fois, donc là, tu rentres activement dans ta vie sexuelle.
Ouais.
Tu continues un peu à côté le porno et
ouais.
Aussi.
Complètement.
Ok.
Complètement. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait vraiment un truc parce que j'avais lu dans un bouquin d'éducation sexuelle. Quand j'avais 13 ans, c'était des questions-réponses, tu vois, avec des gamins qui posaient des questions à un psychologue, je pense, spécialisé dans le sexe. Et où il y avait la fameuse question, est-ce que c'est normal que je me masturbe ? Et la réponse était oui, c'est normal, mais ça passera à l'âge adulte. Et donc moi, je suis resté avec cette idée-là dans la tête, de me dire, ok, la masturbation, c'est vraiment un truc de...
D'ado.
Tu découvres ton corps, t'es adolescent, tu découvres ton corps, il y a une masturbation... Et après, il y a des relations sexuelles avec quelqu'un, mais il faut arrêter, etc.
Ah oui, l'un va combler l'autre.
Exactement.
Wow.
Et donc, je pense que j'ai quand même eu une période, je ne me rappelle pas exactement de combien de temps ça a pu durer, mais je pense que j'ai eu une période de masturbatoire, pas forcément liée que au porno, mais juste masturbatoire avec de la culpabilité, tu vois.
Bah, bien
de
sûr.
Me dire, ok, là, c'est vraiment pas normal. Et c'est après, évidemment, que les cours d'éducation sexuelle ont changé, que bah, même avec les réseaux, il y a plein de choses qui sont sorties. Et ok, là, j'ai compris que ça, c'était deux choses complètement dissociées.
Complètement.
Quoi. Ouais.
Okay. C'est fou comme on se rend pas compte que l'impact de ce genre de... Enfin, c'est un peu anecdotique, tu lis ça dans une interview ou dans un journal, mais ça peut te... te marquer au point de, tu vois, de, d'en faire après un sujet culpabilisant.
Ouais, puis en plus c'est des bouquins de, d'éducation sexuelle, donc oui, en donc fait,
ils
tu,
ont une vérité,
en fait,
quoi.
Tu prends tout, ouais, c'est ça, tu prends tout comme vérité, ouais, et ouais. En fait, tant que t'as pas une information qui va te contredire, pour toi t'es un gamin en plus, donc tu vois, oui. C'est, pour toi c'est la vérité, tu vas jamais essayer de trouver d'autres bien sources, ou, voilà, donc c'est cette vérité-là qui reste ancrée pendant
c'est dangereux quand même, hein. Ouais. Ok, donc là on arrive fin de lycée, tu vas commencer tes études. Mmh. Comment ça se passe sexuellement à ce moment-là?
À fin de lycée, ok, donc là je suis célibataire à
donc
ce moment-là.
Donc tu as vécu ton histoire d'amour qui s'est terminée.
Exactement, je vis plusieurs petites histoires d'amour, mais en vrai la suite du lycée et début d'études supérieures, c'est plus une révélation sexuelle, quoi. Donc d'accord. C'est vraiment ce truc, à ce moment-là en plus je suis vraiment le blond aux yeux bleus qui a fini de se développer un peu. Il y a une période où je porte des dreadlocks en plus, donc il y a un truc un peu, c'est, je crois que c'est la période où c'est un peu cool, tu vois. C'était le moment au Tokyo Hotel, je crois, avec des dreadlocks et tout. Donc tu vois, il y avait vraiment le truc de okay c'est stylé, je fais du skate. Enfin, vraiment, il y avait vraiment.
Tu cochais les cases.
Exactement.
Quoi.
J'étais plus le petit rebelle, tu vois.
D'accord.
Alors que je ne l'étais pas forcément, mais j'avais plus un look de petit rebelle qui d'accord. faisait que c'était facile avec les filles.
Bad boy, mais gentil, du
exactement,
coup.
Exactement, ouais. Okay. Exactement. Mais pas bleus, trop gentil ça. Non plus, mais parce qu'à cette époque-là, j'avais encore compris qu'il fallait pas trop être gentil.
Ok.
Donc là, c'est plus, ouais, révélation. Sexuelle où je m'amuse énormément. Mmh. Et je sens que ça me correspond pas à 100%, que je suis pas, en fait je suis pas dans la période d'épanouissement sexuel complet, mais en tout cas c'est là où j'apprends le plus mécaniquement, juste tu vois, d'un point de vue corps tu vois, de comment se fait plaisir, etc. Et c'est plus tard que je découvre le déclic de faire l'amour, en sachant comment ça marche d'un point de vue mécanique. Et en plus de comprendre où il se passe un truc vraiment plus psychique, tu vois, il y a un vrai truc intellectuel, ouais, exactement, qui se passe. Mais ouais, en gros, ouais, c'est plus la période. En plus, je fais des études de com, donc c'est vraiment que des filles. c'est vrai, en plus, un très peu de mecs dans les promos. Mmh. Vraiment la période où sexuellement, tu vois, ça y est, c'est fini, t'as le bac, tu prends tes premiers apparts, tu commences à être indépendant, etc. Ouais. Donc
quand
ouais,
tu dis que
plus,
tu t'amuses, c'est quoi? C'est que tu sors avec des filles, tu couches avec des filles.
Ouais.
Ok.
Ouais, et puis des trucs sans lendemain, tu vois, des trucs.
Tu dragues comment?
En vrai, à ce moment-là, je drague très peu. Mm-hmm. Et parce que je me rends compte que physiquement, pour la première fois de ma vie, je remplis tous les critères qui font que j'attire les filles
donc
sans avoir
facile.
Besoin de faire grand-chose. Ouais. Et à ce moment-là, je suis vraiment plus le gars qui est dans la blague. Mm. Donc qui. Plus qui fait rire et tout, donc ça, c'est plus tard que je m'en suis rendu compte, mais que ça faisait un espèce de combo qui faisait que je plaisais naturellement. Et à ce moment-là, je le comprenais pas non plus, donc j'avais encore un peu ce truc de me censurer, de me dire mais c'est trop bizarre que je plaise à cette meuf, pourquoi je plais à cette meuf et tout. Donc c'est plus tard que j'ai compris ce truc-là, mais surtout que j'avais énormément de complexes, en fait. Je me trouvais pas beau, j'ai un grand nez, en plus j'ai un nez cassé, donc moi je voyais que le profil où mon nez est cassé, tu vois. Je me disais mais putain, ce nez au milieu de la figure, j'ai des grandes oreilles, donc je me disais ah putain, en plus pour moi c'était décollé, donc de ouf, tu vois. Donc j'avais juste ce truc là, tu vois, où en fait ça prend des proportions qui sont énormes dans ta tête, quoi. Donc j'étais plus complexé. Après, ça m'empêchait pas de vivre ma vie sexuelle, de pas de vivre les aventures que j'avais. Et après, en vrai, tout s'est toujours fait de manière assez saine. J'ai pas de souvenirs un peu de relations sexuelles complètement alcoolisées où tu te rappelles pas trop le lendemain, ou même de consentement un peu moyen, tu vois, où tu sais pas trop si t'abuses, si t'abuses pas, etc. Parce que c'est des vraies questions que je me suis posées des années après, tu vois, quand il y a eu MeToo, etc. Tu vois, en vrai, c'est des vraies questions que je me suis posées en discutant avec des potes de dire. Est-ce que ça a pu arriver, en fait, sans que je m'en rende compte, tu
bien
vois
sûr.
Et ouais, donc cette partie un peu amusement qui doit durer peut-être 3 ans, un truc comme ça.
D'accord.
Même si je me rends compte au fond de moi que c'est pas, enfin que en gros ça va pas durer et que c'est pas du tout. Je suis un peu dans cette recherche de plaire, mais qu'il y a un moment où en fait il me manque un vrai truc, tu vois, de construire un truc d'humain à humain, quoi. Mm-hmm. Donc c'est après que j'ai ma première relation qui dure 4 ans.
Donc là, t'es encore à l'école ? Ou tu commences à bosser ?
Non, je suis encore à l'école, là. Ouais. Okay. Enfin, je suis encore à l'école, mais en vrai, j'ai tout fait en alternance, donc je bossais en parallèle. Donc en gros, de mon BTS jusqu'à mon Master 2, en fait, je bossais en agence, chez l'annonceur. Enfin, j'ai testé plein de trucs en communication marketing. Donc c'était un peu le jeu. En fait c'était le but parce que je voulais pas faire d'études longues. Au final j'ai fait un bac plus 5. Mais ouais, donc non, je suis toujours en études. Et en études, voilà, je rencontre une fille qui me plaît bien, où je recrée pas le même schéma que mes premières relations, dans le sens où je pense que c'est la première meuf que je rencontre qui est pas très manipulatrice, qui essaie pas d'avoir l'ascendant sur moi. D'accord. Et qui est une meuf très cool, où il y a zéro prise de tête, etc., quoi. Là où je pense que je me l'interdisais beaucoup avant. Je recréais un peu le même schéma, je retombais un peu sur le même type de fille, et c'est pour ça que ça ne durait jamais très longtemps.
Okay.
Donc là, c'est la vraie première relation qui dure 4 ans quand même, où on s'installe ensemble, on prend une maison ensemble, ou d'un moment. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la première relation de découverte sexuelle avec un vrai truc où on se dit « Ah cool, en plus, le fait d'être amoureux, il y a un vrai truc qui se passe. »
Et donc avec elle, c'est, vous arrivez à tester des choses qui vous plaisent tous les deux, à pousser un peu les limites, ou vous restez dans une sexualité plutôt, on va dire, normée, soft, vanille?
Non, moi, il y a plein de choses que j'ai fait pour la première fois avec elle.
Mm-hmm.
Après, on n'est pas... Moi, je pense que tous les deux, en plus, à ce moment-là, on n'était pas dans une sexualité où on avait envie de tester des trucs un peu fous, tu vois, de se dire, attends, des lieux publics ou des trucs comme ça, tu vois. Où, en fait, on s'accordait vachement là-dessus de se dire... On va faire ça à la maison.
À deux, c'est bien. Ouais. Mm-hmm.
Mais si, on teste des premières choses, on a des premières expériences ensemble, et c'est plutôt cool. Et en vrai, ça nous va aussi. Ça nous va très bien là-dessus. Et il n'y a pas de moment où on se rend compte qu'on s'installe dans une routine sexuelle où on se dit « Ah, pff, non, on n'a pas trop envie. »
Pendant 4 ans, ça a été le feu à chaque fois ?
Ouais.
Okay.
Complètement. Complètement, il n'y a pas eu de... Enfin, je pense qu'il y a eu des fois, c'était moins bien. Hein, je ne vais pas dire à chaque fois, c'était une redécouverte totale. Mais en tout cas, ouais, il n'y a pas eu de moment vraiment, tu vois, où on s'est dit, ah là, putain, on est dans une période où c'est pas top, quoi.
Mmh.
En même temps, en 4 ans, tu découvres aussi... C'est la première fois où, en fait, tu découvres aussi des relations de couple avec des étapes où tu n'es plus dans la passion. Ouais. Donc, il y a des moments aussi où tu découvres aussi ce truc de libido, tu vois, de ta libido qui descend un peu, ou parfois t'es pas en phase non plus. Hein. Des fois, c'est l'autre qui a moins de libido, des fois, c'est toi. Et où t'apprends que c'est OK, en fait.
Mmh.
Parce que t'as un truc qui est hyper compliqué, mais pour les deux, hein, déjà, il y a un truc où c'est un peu admis. En tout cas, moi, j'ai eu vachement cette éducation-là, mais cette impression, en tout cas, à travers les autres, que le mec déjà doit avoir envie tout le temps.
La fameuse charge mentale sexuelle.
Exactement. Mmh. Et donc ce truc-là de se dire, bah, le mec doit avoir de la libido constamment. Donc du coup, en fait, c'est juste chiant ce truc-là parce que du coup, toi, t'es dans un rôle des fois où tu te forces. Et donc en fait, bah, quand tu te forces des fois, c'est con parce que des fois, ta meuf a pas du tout envie, tu vois.
Mmh.
Et donc elle-même, elle se dit, il y a un espèce de devoir conjugal où elle-même se met dans le rôle de, ah, je pense qu'en vrai... Il y a énormément de meufs dans des relations hétéro qui ont eu des rapports où elles se sont forcées en se disant
ouais.
Bon, là il faut parce qu'un mec en plus il a tout le temps envie, etc.
Exactement.
Ce qui est débile parce que du coup tu te retrouves dans un truc où en fait, toi en tant que mec tu t'es forcé, la fille s'est forcée. Bon, en vrai tu vois, ça se passe bien, mais.
Oui, parce qu'après ça se. Oui, ça se...
Et puis ça se passe quand même dans un certain consentement, tu vois, mais où je pense que les histoires sont un peu différentes pour chacun. Mais et toi après quand t'as plus trop de libido du coup tu culpabilises aussi vachement et du coup bah en fait je sais qu'il y a eu des périodes où ma copine avait l'impression qu'elle m'attirait moins parce que j'avais moins de libido parce qu'elle-même se disait c'est bizarre parce qu'un mec est censé avoir libido tout le temps donc ça veut dire que là s'il a plus envie c'est que c'est moi.
Vous en parliez ?
Ouais on en parlait. Ouais.
Ah, c'est cool.
Ouais on en parlait mais on en parlait en même temps je pense que ça a été des vrais déclics parce que tu vois quand ça s'est arrêté. Ça a été un moment où j'ai l'impression que c'est une fin un peu classique, mais tu vois, un espèce de truc où à la fin on s'est rendu compte qu'on avait moins pris soin de notre couple, qu'on s'est installé dans une certaine routine, pas forcément que sexuelle, hein, mais vraiment globale.
Oui, globale, oui.
Et en fait, on était devenus amis, en fait, il y avait une espèce de complicité plus que de l'amour à la fin. Et je pense que ça, je m'en suis vachement. En gros, en termes de communication sur mes relations d'après, ça a été un vrai déclic aussi, où je pense que j'étais encore plus dans la communication. Après ça quoi.
Que t'avais pas envie que ça retombe comme ça.
Ouais, je voulais pas recréer les mêmes schémas en fait.
Ok. Là-dessus. Donc vous quittez au bout de 4 ans.
Ouais.
Donc là on arrive à peu près.
Là on arrive, je suis sur la fin, donc je bossais en agence, j'ai fini mes études depuis quelques années. Je bossais en agence et on arrive un peu sur la fin. Où moi j'ai monté ma chaîne YouTube depuis 6 mois et où ça commence à bien se passer et où je commence à me dire bah, je vais vivre de ma chaîne YouTube et je vais sûrement quitter l'agence. Donc on est sur cette fin là quoi.
Okay.
Donc en plus, bon, je pense que c'est lié, hein, en plus sur un fin de cycle où je commence à me dire il va falloir que j'arrive à Paris parce que si je vais être YouTuber ça va être très compliqué de faire ça en Normandie. Tous mes potes qui sont des gros youtubeurs aujourd'hui, qui sont normands, bah, en fait, ils sont passés à Paris. Donc voilà, donc je me dis, ok, il est temps que je change, j'aspire à d'autres choses. On est tous les deux dans des milieux très différents. Donc voilà, il y a une espèce de fin de cycle, oui, un peu global, où on se dit, ok, bon, bah là, c'est logique en fait que ça s'arrête. On prend quand même 6 mois. En fait, on part du constat que c'est hyper compliqué de se quitter. Et de gérer ça de manière émotionnelle. Donc si en plus on doit rajouter plein de trucs matériels, on a une maison ensemble, elle voulait acheter un autre appart, moi trouver un appart à Paris, j'ai découvert les galères aussi que c'était. Donc voilà, donc en gros il y a plein de trucs qui se mettent en place et on se dit ok, bah, ce qu'on va faire c'est qu'on va cohabiter le temps que toi tu trouves un appart que tu puisses acheter, et comme ça on va régler juste ces soucis là émotionnels, et une fois que c'est un peu réglé, plus ou moins, parce que je pense que le fait de se séparer aussi physiquement, ouais, ça fait partie du processus d'une rupture, mais en tout cas juste le fait de continuer à parler, ouais, énormément, ouais, et d'enlever le stress matériel,
oui, bien sûr, vous avez été intelligent là-dessus,
ouais, et en fait c'est ce qui fait aujourd'hui qu'on est en très très bon terme, que je connais son copain, qu'on s'entend très très bien, que tu vois là elle est venue avec son copain chez ma mère déjeuner alors qu'elle habite en Normandie, tu vois, donc il y a encore un lien très fort, moi j'étais pas là, voilà.
Quand on a aimé quelqu'un et en plus on arrive à s'aimer, enfin se séparer à la hauteur de l'amour, c'est
complètement,
c'est superbe, tu, ouais, peux avoir des belles relations après.
Bah, c'était vraiment ce truc où on s'est dit, attends, on s'est aimé pendant 4 ans, est-ce que vraiment on va arrêter de se parler et on va se détester d'un coup?
Après, et ça peut arriver aussi parce que voilà, il y a d'autres choses qui se passent, mais c'est vrai que c'est une belle preuve d'amour qu'arrive à bien se séparer.
Complètement.
Donc là, tu arrives à Paris.
J'arrive à Paris, je suis célibataire, je découvre une ville avec une aura sexuelle assez folle, ouais, qui me... Et en plus, j'arrive dans un milieu de l'image, il y a de la notoriété, il y a tout ça. Moi, je commence à être un peu connu en plus, on commence à me reconnaître un peu dans la rue. En soirée, dans le milieu, les gens commencent à savoir un peu qui je suis.
Comment tu le vis, ça ?
Eh ben, y a eu plusieurs phases. Il y a une phase où j'ai bien aimé et j'en ai pas profité, mais en gros, je suis un peu retombé dans ce que je faisais quand j'étais en début d'études supérieures, tu vois, de me dire, ok, c'est cool, on s'amuse entre personnes consentantes et c'est très bien. Et tu sors d'une longue relation en plus, donc tu te dis, j'ai pas envie de me poser, j'ai envie de reprofiter un peu de tout ça. Et après, il s'est passé la phase inverse, où je n'ai plus de libido, je pense, pendant au moins 6-7 mois, quoi.
Okay.
Et en fait, le sexe me dégoûtait, j'ai eu un espèce de trop-plein.
Parce que t'avais trop consommé avant, tu penses ?
Parce que j'avais trop consommé, et surtout, il y a eu un truc qui s'est passé, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui se passait et qui devenait un peu biaisé. Où déjà, je commençais à être très stressé de tomber sur des gens qui me connaissaient, où j'avais très peur, en fait, de rencontrer des gens, et qu'en fait, les gens voient qui j'étais, et que ça crée un truc complètement biaisé, et qu'en fait, je sais pas s'ils couchaient vraiment avec moi ou s'ils couchaient avec l'image qu'ils avaient de moi, ou des trucs comme ça, qui étaient les premiers questionnements, et qui sont, en fait, aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, tu vois, deux ans et demi après. Mais alors que ma notoriété a grandi, qu'on me connaît encore plus dans la rue, etc., qu'on me drague encore plus avec des intentions un peu étranges et tout. Mais du coup, je suis content de m'être posé ces questions-là au tout début de la notoriété, parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. J'ai pris des automatismes un peu aussi.
Et c'est quoi les réponses à ces questions, du coup ?
En vrai, je suis beaucoup plus méfiant. Aujourd'hui, je suis vraiment très méfiant. Je sais que dès les premiers signes de quelqu'un qui me drague, et dès que tu vois vite les premiers signes de... Ça m'est arrivé, tu vois, d'avoir un date avec quelqu'un, mais qui est genre une pote de pote, donc pas via une appli, pas tout ça, tu vois, mais c'est pas vraiment un date, du coup, mais tu vois, c'est juste... On se rend compte qu'on se plaît quand même énormément. On discute, tout se passe très bien. Et puis au bout d'une heure dans le bar, elle me dit en fait, je dois dire, je te l'ai pas dit, mais j'adore vraiment ce que tu fais, tes vidéos et tout. Et moi, il y a eu un truc. Ouais, là, ça a cassé parce que je me dis, ça fait une heure qu'on discute et qu'en fait, tu sais énormément de choses sur moi et que t'attends une heure pour me le dire alors que ça aurait été ok, tu vois. Et que d'un coup, je me dis, pourquoi tu l'as pas dit ? Est-ce que, enfin, tu vois, il y a un truc où je me dis, c'est comme si la personne avait abusé de moi pendant une heure, tu sais, de me dire, mais c'est trop bizarre en fait de faire comme si on se connaissait pas alors que tu sais plein de choses sur moi. Et ça, il y a un truc que je comprenais pas du tout quand je suis arrivé dans ce milieu-là et que je voyais mes potes qui avaient des millions d'abonnés et tout et qui eux avaient déjà connaissaient un peu ce truc-là, tu vois. C'est un truc que je me disais, ah, c'est marrant, ils sont quand même vachement méfiants, vachement fermés aux autres et tout. Et en fait, c'est un truc que j'ai compris par moi-même, tu vois. Mais j'ai découvert j'ai vécu des moments lunaires, tu vois. Des trucs de boîte de nuit, tu vois, ou passer une certaine heure quand les gens ont bu, enfin tu vois, des filles qui m'attrapent par le bras pour m'emmener dans les toilettes, ou des trucs, tu vois, où tu fais waouh, attends, il se passe quoi, c'est très très bizarre, tu vois,
c'est un peu violent, ouais.
Et des trucs, c'est drôle en fait, parce que même des trucs qui sont des témoignages normalement que des meufs te racontent, type des meufs qui te sifflent dans la rue. Moi, ça m'est arrivé, trois meufs qui me sifflent dans la rue. Et où en fait, de prime abord, tu sais, si on me l'avait dit avant, j'aurais fait « Ah cool, c'est flatteur, tu vois ». Pas du tout.
Ah, pas du tout.
Pas du tout. C'est perdu. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte de la violence du truc, de se faire siffler et d'être un espèce de bout de viande. Et en fait, tu sais, je m'étais dit, bah, si un jour ça m'arrive, si ça m'énerve, je leur dirais, je fais, ouais, c'est quoi le problème et tout. Et en fait, mais je me suis vraiment vu ne pas me retourner et tracer et entendre les trois meufs siffler en mode, ah, le petit gars de YouTube et tout, très mignon, petit cul et tout. Et t'es là en mode, tu fais, mais putain, mais quelle humiliation. Ouais, et en fait, c'est. Enfin, une fois aussi, après, ça m'est réarrivé la nuit, tu vois, d'avoir des gens qui commentent ton physique ou des trucs comme ça, tu vois. Mais du coup, je m'imagine le truc de te dire, putain, mais jamais, tu vois, je me suis posé la question de comment j'allais m'habiller pour sortir, par exemple. Où je me suis dit, bah non, ça m'arrive tellement peu de fois que je vais pas me poser la question. Donc après, j'imagine pas, tu vois, ces trucs-là. Et même en boîte de nuit, tu vois, en boîte de nuit, quand t'es une meuf, je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'un mec, tu vois. Mais du coup, voilà, du coup, par exemple, je vais plus du tout en boîte de nuit. Les bars de nuit, j'évite au maximum, ou alors je vais dans des bars où je sais que c'est safe, où je sais que quand je suis avec une bande de potes, on est 10-15 et que c'est ok, tu vois. Donc ouais, c'est en vrai.
T'es pas sur les applis donc.
Non, pas du tout. J'ai une période du coup quand je suis arrivé à Paris où je me suis mis sur les applis, je me suis mis sur Tinder et en fait j'avais très peu de matchs. Donc déjà en termes d'ego, tu fais waouh, bizarre. Et en fait les seuls matchs que j'avais c'était que des gens qui me disaient. Enfin, c'est dégueulasse d'usurper l'identité de quelqu'un de connu, etc.
Et puis là, pour le coup, tu peux vraiment faire aucun tri, quoi. Donc,
complètement. Et après, j'ai eu quelques dates avec des meufs où je me suis rendu compte qu'elles avaient capté que c'était moi, savaient très bien que c'était moi. Et du coup, on revient sur le même truc qui est biaisé, quoi. Et en plus, de base, ça me correspondait pas du tout. Même avant ma chaîne YouTube et tout, tu vois, quand j'étais dans l'ombre, entre guillemets. J'aime pas du tout d'avoir ce date où chacun sait pourquoi il est là, tu vois. J'aime bien ce truc qui se fait un peu naturellement et où t'as un truc qui s'installe.
T'aimes la spontanéité.
Ouais. Et okay. Où du coup, il n'y a même pas de pression parce que, tu vois, si tu sais quelqu'un que tu rencontres en soirée et tout, bah, il y a un moment, tu vois, si ça mène à rien, de toute façon, on ne s'était pas promis, on ne s'était pas retrouvé pour ça, quoi.
C'est ça, exactement. Ok, je comprends. On arrive à ta sexualité aujourd'hui. Est-ce que tu peux un peu décrire l'homme que tu es ?
Bah, du coup, moi, je suis tombé dans un truc où ma phase de dégoût et de dégoût du sexe et de baisse de libido est repartie.
Je te le souhaite.
Donc ça, c'est plutôt cool. Et je m'en suis rendu compte. Après, je me suis rendu compte que c'était très lié aussi à l'équilibre qu'il fallait que je trouve avec les gens, comment je pouvais gérer ça et tout. Donc maintenant, c'est beaucoup plus clair aussi.
Ton hypersensibilité a un rôle dedans, tu penses ?
Ouais, bien sûr. Parce de toute façon, mon hypersensibilité, aujourd'hui, je l'ai beaucoup travaillé et tu vois, j'ai bossé en agence, donc j'ai bossé en agence, je manageais des gens, je gérais des contrats, j'étais dans une partie commerciale. Tu peux pas être hypersensible en agence, dans la communication, dans un milieu hyper concurrentiel où tu dois être un peu requin. Donc ça a fait aussi partie des moments où j'ai dû travailler ça, même si ça n'a pas été les seuls moments. Donc non, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec ça.
Et la ville de Paris n'est pas trop dure pour gérer ça ?
Si, c'est une horreur. C'est une horreur et j'ai mis hyper longtemps. Tu vois, là, ça fait 2 ans que je suis à Paris et je commence à peine à profiter vraiment de Paris parce que j'avais des trop-pleins, tu vois. Je bouffais l'énergie des gens, en fait. Et quand tu chopes très vite l'énergie et l'état d'esprit dans lequel les gens sont,
ouais.
Bah, tu prends le métro une fois, c'est terminé, tu vois.
C'est ça,
tu fais 7 stations, t'as chopé l'agressivité, la négativité de tout le monde, le stress et tout ambiant. Et en fait, bah, j'étais stressé tout le temps. Du coup, je dormais très mal, je dormais très peu. J'avais un espèce de truc de rentabilité parce qu'en plus, tu rajoutes du stress où je m'étais dit, j'ai 1 an pour vivre de ma chaîne YouTube avec mes économies et tout, tu vois. Donc rien n'allait en vrai, rien n'allait là-dessus, enfin rien n'allait.
Donc ça explique aussi voilà, cette libido qui était de côté quoi.
En vrai ouais, c'était vraiment lié parce que j'étais stressé tout le temps et que j'avais vraiment pas la tête à ça et forcément en plus t'as plus la tête à te dire comment je vais vivre de ma chaîne YouTube, comment je vais trouver... La période est passée, ma chaîne YouTube a commencé à bien fonctionner, j'avais plus de galère d'argent, j'avais de la visibilité, je faisais des contenus qui me plaisaient de plus en plus, où je sentais que je me trouvais de plus en plus aussi... Donc non, après j'ai retrouvé une libido cool. Après je suis tombé dans des trucs différents en fait. Je me suis mis en couple après, qui était une fille qui était connue, et où en fait je voulais pas. En fait, ça n'a jamais été officiel publiquement, tu vois.
D'accord.
Donc il y a des gens qui nous croisaient dans la rue qui faisaient ah ok voilà, qui nous envoyaient des messages derrière et tout. Mais à aucun moment on le disait sur les réseaux.
Pourquoi vous avez pas voulu en parler ?
Parce que, en fait, il y a un truc très complexe, c'est qu'à partir du moment où tu... En fait, déjà, c'est compliqué. Moi, il y a une part de moi qui appartient aux gens, que je le veuille ou non. Tu appartiens en partie aux gens, et c'est pour ça que je fais attention aussi à ce que je montre. Et en plus, je suis dans des contenus où quand même je me livre énormément.
Évidemment,
on
oui.
parle de soi énormément. Mais en fait, c'est bizarre parce que tu vois, bizarrement, on pourrait se dire, bah, tu vas tellement loin dans tes vidéos que tu pourrais montrer avec qui t'es en couple, quoi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment ce qui me reste de vie privée, tu vois.
Je comprends.
De me dire, je sais exactement ce que je livre de moi. C'est pour ça qu'on voit jamais ma famille non plus dans mes vidéos.
Et puis ils ont rien demandé en plus.
Complètement.
Pour le coup.
Ouais. Et on voit très peu, en fait on voit très peu ma vie privée, tu vois. Quand je suis en Normandie, je fais très peu de stories de ce que je fais, etc. Quand je rentre chez moi, même dans la rue, enfin tu vois, vraiment il y a un truc où c'est quand même bien séparé.
Bien sûr.
Et surtout, du coup, en tant que couple, on voulait pas, déjà qu'individuellement on appartient un peu aux gens, on voulait pas que notre couple appartienne aux gens.
Ouais, devienne.
Parce que
ouais.
ça te rajoute une pression supplémentaire en plus, c'est-à-dire que oui. le moment où ça se passe mal, tu vois, bah, ça veut dire que t'as des comptes à rendre aux gens et tout.
Non, mais ce qui est terrible, c'est qu'en plus tu projettes que tu commences une relation et t'es déjà dans la projection de le jour où on va se séparer, comment
ouais.
les gens vont l'appréhender, alors que tu devrais jamais se poser ouais. cette question quand tu commences.
Et on voulait pas tomber en plus dans le schéma de la mise en scène d'un couple, parce qu'on ouais. sait que bah, les gens s'attachent aussi, ouais, ça fait du storytelling, donc en vrai tu finis par en jouer. Et il y a un moment où tu vois,
pourquoi, ouais.
on n'a pas envie d'être un couple public où en fait on prend des photos ensemble, où on se force à dire ah ça, on pourrait faire un week-end là-bas parce que c'est quand même bien Instagrammable et tout. On voulait surtout pas tomber là-dedans.
Oh là là.
Donc on était vraiment d'accord là-dessus et c'était cool.
J'ai envie de te poser la question, tu penses qu'il y a des gens qui font ça, mais j'ai
bien
la
sûr,
réponse.
Bah,
non,
évidemment.
Mais j'ai la réponse.
Évidemment. mais bien sûr, il y a énormément et je connais plein de couples qui font ça. Mais après, tu vois, j'ai eu l'exemple aussi de plein de potes qui ont fait cette erreur et derrière c'est compliqué, tu vois. Tu vois, Kemar et Natou qui ont été un peu le couple mythique
ouais,
YouTube, le moment où ils se séparent, bah ça veut dire que les gens même décident dans quel camp ils sont, comme s'il
alors
y avait un camp à choisir,
ouais,
tu vois.
Alors que pas du tout, ouais.
Donc c'est compliqué. Mais donc on a eu cette chose là où
ton audience savait que t'étais en couple.
Non, en vrai, bah si, les gens qui nous croisaient.
Oui.
Mais non, il y a plein de gens qui ne savaient pas du tout que j'étais en couple, quoi. Parce que je disais ni que j'étais célibataire, ni que j'étais en couple.
Ok. C'est vrai que tu jongles bien sur ton image sociale, tu jongles bien avec ça. Parce que t'arrives à bien... Enfin, tu parles beaucoup, mais tu ne dis pas grand-chose. Mmh. Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça.
Bah, en fait, à chaque fois... En fait, je sais que c'est le jeu aussi,
ouais.
qu'il faut que je donne de moi et qu'on est à une période où bah, en fait, c'est quand même très compliqué de que ce soit pas personnifié, tu vois, parce que les gens suivent quelqu'un.
Oui, et puis ton authenticité, elle passe aussi par ce que tu vas
Exactement.
Raconter, donc c'est compliqué.
Non, en fait, il y a un moment où il faut jouer le jeu aussi. Et je me dis, bah, si mes contenus ils peuvent faire du bien, je peux pas le faire à moitié.
Bien sûr.
Mais du coup, je sais exactement ce que je peux raconter. Et en fait, à chaque fois, je raconte pas un truc gratos, quoi. Mais toujours, si ça, je le raconte... Est-ce que je le dis parce que ça peut aider des gens et ça peut avoir du sens dans le format, dans la ligne édito, est-ce que je veux raconter ou si ça en a pas et que c'est juste raconter sa vie pour raconter sa vie privée, ça n'a aucun sens et ça je le fais pas. Et ça m'évite d'éclater au vol aussi, hein, parce qu'en fait tu peux très vite tomber dans des trucs où en fait tu racontes trop de trucs et après tu fais non, pourquoi j'ai raconté ça. Et il y en a plein aussi, hein, qui, une fois que t'es tombé dans l'engrenage, t'as l'impression de devoir te forcer à montrer ta vie tout le temps et c'est là que ta vie t'appartient plus du tout. Et quand c'est
ça,
une vie
ouais.
amoureuse, sexuelle et tout, c'est quand même hyper complexe, quoi. Donc c'est vrai qu'on parle de sexualité quand même sur ma chaîne, mais je crois que je me suis déjà censuré d'ailleurs, parce que je me suis déjà vu raconter des trucs sur mon couple à l'époque, on n'est plus ensemble, mais sur mon couple à l'époque, et où j'ai coupé ces séquences-là, parce que je me suis dit, non, ça tu vois, par exemple, ça, c'est de l'ordre de... c'est trop intime.
Oui,
et
puis ça vous appartient à deux, donc...
Complètement.
Donc
ouais.
t'es célibataire
ouais.
Comment tu appréhendes, là il y a l'été qui arrive, il fait déjà hyper chaud, comment t'appréhendes cette période qui est souvent propice aux rencontres, etc. Alors j'imagine que tu vas beaucoup travailler parce que tu me disais que là t'as enregistré énormément, que ta rentrée va être très chargée.
Bah on a une période un peu post-Covid compliquée,
ouais.
dans le sens où moi j'avais la moitié de mon chiffre d'affaires qui devait se faire les deux mois du confinement, donc j'ai perdu beaucoup d'OP, beaucoup de
ouais,
marques
j'imagine.
Qui sont pas faites. Beaucoup de choses, les émissions avec France TV qui finalement de toute façon sont reportées en général. Mais ouais, non, en vrai, moi j'ai eu surtout des grosses galères financières qui sont arrivées, où j'en suis pas sorti non plus. Donc en fait, là, mon été, c'est un peu triste à dire, mais mon été, c'est du boulot, quoi. C'est que du taf, quoi. C'est, tu vois, à partir d'août, on passe à la vitesse supérieure avec une vidéo par semaine sur la chaîne.
Wow.
Donc ça veut dire qu'à partir du moment où tu enclenches ce truc-là, tu peux plus faire marche arrière, donc c'est de l'organisation. J'aurais peut-être un peu de vlog aussi, mais c'est pas genre j'allume ma caméra, je tourne une vidéo et c'est bon, elle sort deux jours après quoi. Il y a un process qui est long, maintenant j'ai un monteur aussi parce que je peux plus faire tout ça. Donc en fait, t'es obligé de prendre de l'avance. Donc là, ouais, ça, on a tourné.
Et ça, c'est à partir de quand vous êtes à une semaine, une
normalement,
vidéo
août,
par semaine ?
À partir d'août, on est une vidéo par semaine, ouais. Wow. Avec principalement du entre-mecs, il y aura d'autres vidéos aussi, mais principalement du entre-mecs et avec une nouvelle formule, même si l'ADN reste le même, mais un peu une nouvelle formule qui est plus adaptée à YouTube et qui est plus adaptée aussi au rythme qu'on va
d'accord.
faire. Mais je suis hyper content là de ce qu'on a tourné parce que c'est on revient même à l'essence même de ce qui est
avec
de
ta team.
Ce qui est entre mecs, ouais, avec ma team et en plus bah nous on évolue aussi dans nos vies, tu vois. Donc on vit des choses et on évolue même entre nous parce qu'on on est de plus en plus à l'aise entre nous à se raconter des trucs et
c'est
tout.
Cool.
Et du coup c'est hyper cool là, tu vois, on parle dans les prochains par exemple, on parle énormément de sexualité aussi et je pense qu'on raconte des trucs qu'on n'aurait jamais raconté dans les premiers épisodes.
Bien sûr.
Et ouais, donc non, moi l'été en vrai, d'un point de vue privé, ça, c'est un peu triste. Hein. Je pense que les gens fantasment un peu le truc aussi, mais.
T'es pas à Ibiza sur un yacht.
Non, vraiment, il va y avoir, ouais, il va y avoir très peu de. Je vais pas inviter 10 abonnés avec moi dans une villa. Il y en a qui le font. Hein.
Ouais, ouais.
Non, non, moi je suis très sage en fait. je suis devenu très sage en fait. Mais non, j'ai pas. Et puis comme je te dis, en vrai, moi c'est un truc qui me bloque énormément en fait, donc je suis très méfiant aussi, donc je sais que je me ferme à beaucoup de rencontres aussi, mais en fait c'est horrible, mais finalement je rencontre que des gens dans mon milieu, tu vois, que des gens d'un point de vue pro, vu que j'invite quand même beaucoup de gens sur ma chaîne qui sont pas de mon milieu,
oui, ça ouvre
mais
un peu.
Mais j'invite pas des gens dans l'optique de les draguer, tu vois, en plus vu qu'avec Entre Mecs c'est principalement des mecs que j'invite, il y a très peu ça.
Ah, j'allais te poser justement cette question à un moment donné sur ton rapport, comme t'es dans une déconstruction qui est très avancée. Est-ce que justement cette question de la sexualité homosexuelle t'a déjà est déjà venue à ton esprit, j'imagine que oui, mais comment tu l'appréhendes?
Tu veux dire
moi, est-ce que toi avec toi oui toi
est-ce que je me suis déjà posé des questions sur mon orientation sexuelle?
Exactement. Même pas forcément jeune, parce que comme aujourd'hui t'es dans cette ouverture d'esprit.
Complètement. Bah non, alors moi c'est des questions que je me suis posées jeune. Quand, à la découverte de ma sexualité, en fait, je me suis posé la question.
Parce qu'assez spontanément, petit garçon, t'avais une amoureuse en maternelle.
Ouais, ouais.
En reproduction du schéma, mais parfois.
Bah, en fait, je me suis posé la question très jeune de me dire est-ce que je suis attiré par les filles depuis le début, mais c'est une espèce de construction, et finalement, je recrée un schéma, mais est-ce que ça me correspond? Est-ce que j'aime les deux aussi et tout? Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte, j'ai jamais eu d'expérience homosexuelle. J'ai déjà embrassé des garçons, tu vois, il y a déjà eu un truc qui est même un peu des rites de mecs entre eux et tout, vers 14 ans, tu vois. Et en fait, il n'y a jamais... Pour moi, ça a toujours été très, très clair, quoi. Et même aujourd'hui, tu vois, je me suis reposé la question il n'y a pas longtemps, parce que je me fais draguer énormément par des mecs. Et encore plus quand j'étais photographe, par exemple. Quand je suis arrivé photographe, comme en plus, je suis assez fin, je porte très facilement du rose, je porte très facilement... Enfin, il y a des trucs de déconstruction qui me paraissent hyper logiques, où moi, c'est OK. J'ai une certaine sensibilité que j'assume aussi, tu vois. Et du coup, il y avait beaucoup de mecs qui croyaient que j'étais gay. Et dans un milieu où il y avait énormément de gays aussi,
mais
tu
évidemment.
Vois. Et que moi, ça
évidemment,
me faisait mal.
Beaucoup de gays assumés.
Beaucoup de gays assumés, bien
beaucoup
sûr.
Partout,
ouais, bien sûr.
Toujours
non,
assumés.
Sûr. Du coup, ouais, je me faisais énormément draguer aussi. Et j'ai pu me poser la question des fois, tu vois, parce qu'il y a des mecs que je trouve beaux, tu vois. Mm-hmm. Et très clairement, je me le cache pas, tu vois. Je me dis, ouais, ok, j'ai vraiment un truc où je peux dire autant pour une femme que pour un homme si c'est une personne qui peut m'attirer ou pas. Mais il n'y a jamais rien de sexuel, en fait, tu vois. Pour moi, il y a vraiment un truc de, ok, je suis en capacité de dire, tu vois, Toto, par exemple, qui est un de mes chroniqueurs, qui est mon tatoueur.
Oui, je vois tout à fait, ouais.
Je sais que c'est un très beau mec, tu vois. Et pour autant, tu vois, je me rends compte qu'il n'y a aucune... Enfin, ça ne me réveille rien de sexuel, tu vois.
Tu te laisses l'opportunité un jour, peut-être, d'avoir une expérience homosexuelle?
Non, ouais, en vrai, j'en sais rien, tu vois. En vrai, pour moi, il n'y a rien de figé, tu vois. En vrai, j'aurais tendance à dire qu'il y a quand même très peu de chances que j'ai une expérience... Vraiment, que je tombe amoureux d'un mec, tu vois, et qu'il se passe une histoire de ouf et tout.
Sans parler d'amour, juste sexuel.
Ouais, bien sûr. En fait, peut-être. En vrai, franchement, j'en sais rien.
C'est un pas à ça, c'est pas impossible.
Pas du tout, pas du tout. Et tu sais, c'est sur le plan sexuel, mais même globalement dans ma vie, je remets en question mes certitudes constamment.
Bah, c'est ça, c'est ce que je. C'est ce qu'on dit, et surtout quand on fait ce travail-là d'ouvrir les discours, les expériences, et qu'on s'intéresse à ce qui existe.
Ouais.
C'est vrai qu'on sort beaucoup de sa zone de confort, on découvre plein de pratiques. Enfin, même, tu vois, là, à ta place, il y a eu des hommes qui ont eu des sexualités incroyables et c'était leur norme, mais des choses, tu vois, que tu imagines pas, et inversement, d'autres qui ont des sexualités très vanilles et une petite, on va dire, fantaisie va, tu vois, habiller toute leur vie sexuelle. Enfin, c'est fascinant de ça, chacun a son curseur. Tu as des hommes qui vont se masturber 5-6 fois par jour et c'est normal, d'autres une fois par mois et c'est ok. Enfin, c'est fou, quoi, la différence. Donc, et quand en plus on est versé comme tu peux l'être et comme je le suis à interviewer des gens, rencontrer des gens, nourrir ça, c'est vrai que ça casse beaucoup d'idées préconçues. Donc c'est en cohérence que tu dis qu'effectivement rien n'est figé.
Ouais, et puis moi, il y a même une période où ça m'énervait, tu vois, de pas être attiré par les mecs, parce que tu sais, je me disais, putain, ça me ferme à des expériences de ouf, tu vois. Je dis, putain, j'avais envie de vivre ce truc-là et tout. Après, bon, tu vois, je me suis jamais rien forcé à faire, tu vois. Je suis jamais forcé, par exemple, à coucher avec un mec pour me dire, est-ce que vraiment. Alors que j'ai eu beaucoup d'opportunités, tu vois, où la question a pu se poser plusieurs fois, tu vois. Et non, à chaque fois, tu vois, je me disais, bon, non, on verra, hein, peut-être. Peut-être plus tard, mais en vrai, là, je sais que. J'ai sans rien intellectualiser, je suis très attiré par les femmes.
Et est-ce que t'as un type de femme?
Non.
C'est vrai?
Alors non, vraiment pas. Et je suis même un peu moins maintenant, mais et je pense que l'hypersensibilité joue beaucoup, mais je suis très cœur d'artichaut aussi, tu vois. C'est-à-dire que je tombe pas amoureux, tu vois, mais je trouve des choses très très belles dans beaucoup beaucoup de personnes. Et donc évidemment chez les femmes aussi il y a plein de choses qui me plaisent et où ça peut attirer des vraies attirances sexuelles aussi chez beaucoup de femmes, quoi. Donc du coup non, en vrai je suis autant sorti que j'ai couché avec des femmes mais qui n'ont rien à voir physiquement et même psychologiquement dans les caractères, dans tout ça, tu vois. C'est pour ça que je te dis que ça m'énerve même de pas pouvoir tomber amoureux d'hommes, parce qu'en fait pour moi je suis tellement amoureux de, tu vois, pour moi ça a aucun sens d'avoir un type de femme, tu vois. Pour moi il y a un truc qui se passe avec une personne, tu vois, qui est un être humain, et il se passe un truc et il y a un feeling qui se crée, tu vois.
Donc t'es versé sur une pansexualité au moins philosophique, parce que
exactement, ouais,
pas physique,
exactement.
Mais au moins philosophique,
mais en tout cas voilà, parce que je sais que il se passe pas les... mais tu vois, ce truc de séduction, c'est un truc que je retrouve quand même, que je peux avoir avec les mecs, tu vois. Et on est encore plus dans, enfin moi tu vois, je suis dans un milieu d'image, de notoriété, où en fait la séduction elle est au centre de tout, tu vois,
tout
et même si c'est pas sexuel tout le temps. Et avant je bossais en agence de com, donc tu vois, tu sais aussi ce que c'est. Il y a un vrai truc de on séduit, on est dans la séduction tout le temps avec tout le monde. Du coup, bah en fait je séduis autant des hommes que des femmes, tu vois. Mais évidemment, c'est pas le même type de séduction avec des femmes, quoi.
Ah ouais, puis ça se concrétise pas pareil.
Ouais, complètement. Mais non, là je me rends compte que ça y est, là, avec l'été, les hormones, je reçois beaucoup de messages sur Instagram, donc là,
c'est le curseur.
Là, j'ai énormément de propositions.
c'est le barème.
Ouais, et c'est presque la période qui m'angoisse un peu, tu vois.
En même temps, tu mets pas mal de photos de toi où t'es dans une projection de sensualité, dans les hot dudes là, que je fais tous les dimanches, qui est vraiment l'idée, enfin c'était vraiment une idée qui était partie comme ça, où moi je trouve qu'on célèbre pas assez le corps masculin, la beauté du corps masculin, et au-delà de la beauté, c'est même nous les femmes, on sait comment se mettre en valeur depuis le plus jeune âge, tu vois, on t'apprend à te maquiller, à t'habiller en fonction de ta morphologie, même si on devrait s'habiller que juste comme on a envie, mais on sait tout, c'est fou, quoi, il n'y a pas une partie de ton corps que tu peux pas pimper. Et c'est vrai que t'es un des rares hommes à assumer sa sensualité, ses courbes, son corps, et donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien partager les photos que tu fais avec Marie, c'est ça, Marie Posa?
J'en ai fait avec Marie, et là, toutes les dernières, c'est avec Juliette Léniel, et c'est marrant parce que...
Des fois, j'oublie les nommer, alors c'est super qu'on le fasse là.
Ouais, Marie Posa, c'est une des premières photos que j'ai faites. C'était vraiment au début de ma chaîne où j'étais maquillé. Et en fait, je crois que c'est la première photo où je me suis rendu compte à quel point c'était politique, alors que moi, ça me faisait juste kiffer d'être maquillé. Et après, j'ai fait une photo en crop top.
Ouais, je m'en rappelle.
Et pareil, cette photo en crop top, j'ai réalisé à quel point il se passait un truc chez les gens. Et en fait, je m'étais pas... Pour moi, tu vois, le crop top, je me rendais compte que c'était un peu tabou, et je m'étais dit, mais pourquoi on porte pas des crop top? Et en fait, je regardais Le Prince de Bel-Air, et je suis tombé sur un moment où Will Smith porte un crop top, et c'est hyper viril, en fait. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est fou.
Will Smith en même temps.
Ouais, évidemment. Mais tu vois, je me suis dit, je me suis dit, mais ok, mais pourquoi
Mais dans les années 80, 90, les assumé. Gars... Ouais, ouais, les sweet crop top, il y en avait plein, etc.
Le crop top que je porte... je le porte avec un jogging par exemple. Oui, en fait, ça fait, il y a presque un délire un peu basket qui rebascule presque en truc de virilité, qui est plus en mode sportif. Et dans ce cas-là, c'est sportif, c'est bon, c'est viril. Il y a toujours un équilibre un peu étrange. Mais en vrai, quand j'ai vu à quel point il y a plein de mecs qui ont commencé à poster des photos d'eux en crop top en disant c'est bon, j'assume de mettre un crop top, j'ai vu que Ben Nevers l'a fait, etc. Je me suis dit, ah, mais ok, c'est ça qui se passe, c'est trop bizarre. Et là où moi, j'ai jamais eu un truc politique. Tu vois, j'ai jamais eu une intention politique du corps.
C'est pas calculé,
vois.
Quoi. Ouais.
Pour moi, mon corps, il l'est, mais la mise en avant de mon corps, je le fais pas d'un point de vue politique ou pour revendiquer des choses. Mmh. Je le fais pour me montrer, moi, de ce que je kiffe faire, en fait, mmh. tu vois. Et de choses que je m'autorise depuis très longtemps, parce que pour moi, ce truc de masculinité a été beaucoup déconstruit sur plein de plans. Mmh. Et il y a eu une autre étape, là, pendant le confinement. J'ai fait un shooting avec Juliette Léniel. Mmh. Et en fait, il s'est passé un truc. Où vraiment, je crois que c'est vraiment les photos où pour moi il se passe un truc beaucoup plus sexy.
D'accord.
Où il y a un truc plus assumé d'être sexy. Avant c'était plus un truc de, à part la photo du crop top et puis maquillé, où il y avait encore un truc de je suis un mec drôle, ouais, un truc où on se prend pas trop au sérieux et tout. Et c'est presque les premières photos que je me prends un peu au sérieux. Et c'est là que j'ai vu à quel point ça a changé même le regard des gens sur moi.
T'aurais pu shooter avec un homme comme ça ?
Ouais, je pense. Je pense vraiment que c'était là c'est vraiment une histoire d'humain à humain quoi. C'est D'accord. vraiment un truc où je pense que Juliette, tu vois, je l'ai pas fait parce qu'on avait une relation tu vois, genre je l'ai pas fait en me disant je suis en train de draguer la photographe, tu vois.
D'accord.
C'est vraiment parce que elle m'a mis hyper à l'aise et elle a réussi à ressortir des trucs, mais en vrai tu le vois sur ses autres photos en portrait, elle arrive à ressortir des trucs de fou. Là, elle est très très forte pour ça. Et moi, je crois vachement, comme pour le tatouage, je crois vachement à la rencontre avec un artiste, tu vois, qui apporte ça, où il se passe un truc, c'est à double sens.
D'ailleurs, je suis hyper fière parce que j'aurais vu en avant-première le tatouage
de
Monsieur Poulpe. Ouais.
Complètement, ouais. Ça va sortir en août, je pense.
Voilà, je ne dirais pas ce que c'est, mais c'est hyper réussi.
Merci à lui d'ailleurs. Parce que
merci à lui et bravo à toi d'avoir assuré l'interview en te faisant tatouer en même temps avec lui. Quoi.
Bah écoute, je sais pas si c'est du courage ou de l'inconscience, mais c'est un peu l'histoire de ma vie. Mais, ouais,
mais t'as pas eu mal, ça t'a pas. Pas bon, t'es
un
déjà.
Peu, ouais, ouais. Un peu, mais. Mais
t'as pas eu peur.
J'ai eu peur au moment où vraiment lui a pris le dermographe et qu'il allait le tatouer et qu'en fait il s'est pas tatoué. Donc tu vois, il y a un moment où tu te dis, mais. Et donc en fait, Toto lui expliquait.
Parce que j'allais
comment,
dire, Toto était genre en mode méga concentration.
Mais du coup, ça fait des séquences très drôles. Hein.
Ah
ça fait des séquences très drôles où lui-même. Puis comme lui est très drôle, il en joue et il joue sur le côté, je sais pas ce que je fais.
Oui, mais
tout.
Tu sais jamais dire.
Exactement. Donc il y a des moments où on voit que je suis vraiment pas du premier degré.
Quand même.
Il y a des moments où on fait un peu le show, etc. Et il y a des moments où tu vois vraiment que premier degré, je suis.
C'est génial.
Je me dis, on n'est peut-être pas obligé de le faire.
Mais c'est hyper réussi en tout cas. Ok. Ça va être quoi ta sexualité demain, Benjamin ?
Bah c'est une bonne question.
Parce que là, t'as 27, c'est ça ?
Ouais, je vais avoir 28 en septembre. Et les 30 ans approchent. Mais non, en vrai, tu vois,
souhaites quoi ?
C'est fou, en fait, je me pose pas trop la question. Mais en vrai, je me souhaite d'avoir une sexualité toujours autant épanouie et ouverte, en fait. En vrai, il y a encore plein de choses que j'ai pas testées. Il y a plein de choses que je teste au fur et à mesure. Et je me dis, waouh, j'ai vécu sans connaître ce truc-là, c'est fou. Moi, je me souhaite surtout d'avoir des connexions de ouf avec des gens. Parce que j'ai l'impression d'être dans un stade de ma sexualité où, d'un point de vue mécanique, j'ai compris ce que c'est, tu vois. Je me dis, ok, ça, j'ai compris. D'un point de vue sensation, d'un point de vue tout ça, ok, c'est cool. J'ai testé avec plein de gens. Donc, je vois aussi à quel point ce qui fait kiffer les uns fait pas kiffer les autres. Les sensibilités sont pas les mêmes, etc. Et en fait, moi, là, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, c'est de construire un vrai truc avec quelqu'un, de comprendre sa sensibilité, ce qui l'a fait kiffer. Et d'avoir plus une espèce de connexion chimique qui se crée entre nous, tu vois. Parce que, en fait, les premières fois où j'ai vraiment découvert ce qu'était le sexe en étant vraiment amoureux, tu vois. Enfin, je sais pas, parce qu'amoureux, c'est peut-être un peu galvaudé. Mais sans dire amoureux, mais vraiment en disant il se passe un truc entre nous.
Il y avait
une
connexion émotionnelle forte.
Exactement, connexion émotionnelle, c'est le bon terme. Je me suis dit, ça, c'est le sexe puissance 1000, quoi. Là, il se passe un vrai truc de ouf, quoi. Donc, en vrai, je me souhaite de connaître ces trucs-là. Et puis je sens déjà que je commence à être, bien que je sois dans un milieu où c'est pas trop la norme, mais je sens aussi que j'arrive à un âge où bizarrement il y a des codes sociaux qui arrivent, tu vois, les gens sont plus ou moins casés, ceux qui le sont pas, tu vois, il y a des questionnements un peu autres. Mine de rien, je vais rencontrer des meufs qui ont quand même 30 ans passés, donc tu vois, il y a quand même un truc qui va se passer où je sens que c'est des stades de vie différenciés, avec des questionnements qui sont différents, donc mais ça me fait pas peur. Vraiment, en vrai, ça c'est même assez excitant de me dire, putain, c'est cool, je vais commencer à vivre un autre cycle de vie, et j'ai surtout aucun regret. En vrai, je pense que c'est vraiment, mais d'un point de vue sexuel, mais même dans ma vie, dans mes projets et tout, j'ai toujours fait des trucs où de l'extérieur les gens disaient, mais pourquoi il fait ça, ça n'a aucun sens rationnel. Et moi, j'étais en mode, mais c'est mon intuition, et moi, je veux juste me faire kiffer, je veux pas regretter de faire ce truc là. Et donc, tu vois, là, j'ai eu aucun regret sur mes entre 20-30 ans. Pour moi, j'ai vécu tout ce que j'avais à vivre et qui m'a fait kiffer, tu vois. Et donc là, j'ai hâte de passer ce nouveau cycle qui va être aussi cool, autant professionnellement que d'un point de vue amoureux, sentimental, sexuel.
Trop cool.
Donc ouais, je me souhaite de vivre toujours sans certitude, en tout cas, de remettre toujours les choses en question et de kiffer avec d'autres gens.
Ok, et généralement mes invités terminent par le mot de la fin.
C'est toujours compliqué de donner des conseils. Ouais. À chaque fois je me dis, mais t'es qui pour donner des conseils? Et c'est pour ça que d'ailleurs dans Entre Mecs, on donne très peu de conseils. Et en fait, moi je crois beaucoup en convaincre les gens ou inspirer les gens par l'exemple. Okay. Et en fait je me suis rendu compte, et c'est ce que je fais essentiellement sur ma chaîne, qu'en fait j'ai arrêté d'essayer de convaincre des gens en disant « Ah mais fais ça, tu devrais faire ça et tout ». Le moment où j'ai arrêté de faire ça, parce que je me rendais compte déjà que ça marche jamais en fait. Plus tu vas dire aux gens, ouais, tu devrais faire ça et tout, moins ils t'écoutent. Mais plus toi, cette énergie-là, tu vas la mettre à faire tes projets, plus ça va montrer l'exemple et plus tu vas rayonner en fait. Et plus les gens vont se rendre compte que tu fais des trucs et là vont s'inspirer de ce que tu fais. Okay. En fait, tu dis, mais c'est cool parce que j'ai mis de l'énergie dans mes propres projets. Toute mon énergie, elle s'est mise dans des choses qui me servent. Et en plus, ça fait le résultat final de ce que j'ai essayé de faire. Donc ouais, non, moi, en vrai, si j'avais un conseil qui n'est pas vraiment un conseil, mais moi, je me suis surtout rendu compte que toutes les choses où j'avais l'impression de très mal partir dans la vie, donc voilà, tu vois, ce retard de croissance, ce retard hormonal, cette hypersensibilité qui englobe plein de points, ben, même ce truc d'être bon, sans rentrer dans les détails, mais moi d'un point de vue scolaire, ça a été une catastrophe. Enfin, j'ai quand même fait un bac plus 5, j'ai eu mon bac, j'ai fait un bac plus 5 et tout, donc j'ai pas quitté le système scolaire, mais ça a été une horreur, mais j'étais vraiment pas fait pour ça, tu vois. Et mine de rien, en fait, toutes ces choses-là, le fait d'avoir passé beaucoup plus de temps, d'avoir séché beaucoup de cours et d'avoir passé plus de temps en dehors de l'école à monter de mes propres projets très tôt, à avoir cette espèce d'empathie qui était horrible à vivre et en même temps je l'ai travaillé, ce retard de croissance qui m'a fait me poser beaucoup de questions sur moi, sur l'humain, sur les relations qu'on avait entre hommes, femmes, etc. Bah, en fait, aujourd'hui, là, tu vois, à presque 30 ans, c'est fou parce qu'en fait c'est devenu ma plus grosse force, tu vois. Et c'est pas forcément que dans l'adolescence, hein. Je pense que même à 30 piges on peut être dans des moments de doute énormes sur ce qu'on est, sur nos capacités, sur tout ça, d'un point de vue perso pro. Et souvent quand on voit pas le bout du tunnel, tu vois, c'est bien aussi d'entendre des gens que je pense qu'ils te disent non mais là en fait ce que tu vis là, ça se trouve ça sera ta plus grosse force dans quelques années, quoi. Et en vrai, moi, c'est ce que je me rends compte là aujourd'hui, c'est que à presque 30 ans, c'est maintenant que j'ai l'impression de pouvoir révéler au maximum mon potentiel, tu vois.
Super. Bah, merci beaucoup, Benjamin.
Merci à toi.
Merci infiniment à Benjamin pour cet échange qui était vraiment super. On a beaucoup parlé aussi après. Je pense qu'on aurait pu passer beaucoup de temps à se parler l'un et l'autre. C'est vraiment chouette de rencontrer des garçons comme ça et des humains comme ça, tout simplement. Merci à vous pour votre fidélité, votre soutien, votre bienveillance. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux du podcast et laisser un avis avec plein d'étoiles, parce qu'on aime bien les étoiles, sur Apple Podcast. Je vous dis à très très bientôt et vous souhaite un merveilleux été. Bye.